Elle peut faire un peu frissonner, véhiculer de drôles d'images dans le domaine du fantastique. Elles sont aussi parodiées dans de nombreux écrits. La momie, dans la littérature du 19e siècle, est à l'honneur aujourd'hui.
Les momies dans les œuvres de fiction entre rire et peur. C'est la conférence de Valérie Rion, professeure de français et d'histoire au lycée cantonal de Porrentruy, à suivre mercredi soir au musée d'art et d'histoire à Delémont dans le cadre de l'exposition consacrée aux momies.
Et nous sommes justement ce matin en compagnie de Valérie Rion, donc professeure de français et d'histoire. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Alors, le point de départ de cette conférence, c'est votre service civil au musée jurassien d'art et d'histoire.
Exactement, en fait, ça peut paraître insolite, mais j'ai accompli une affectation de service civil au musée et j'étais en plein dans l'exposition des momies et j'ai fait visiter l'exposition à plusieurs classes des écoles secondaires et primaires de Delémont. Et à la suite des discussions avec la conservatrice, Nathalie Fleury, on s'est dit qu'il pourrait être intéressant d'organiser une conférence parce que à côté de mon emploi, je suis aussi doctorant et chercheur en littérature française et mes intérêts de recherche portent sur la littérature fantastique du 19e siècle et plus précisément les personnages de femmes mortes ou mourantes ou fantômes qui exercent une forme d'attirance et en même temps de répulsion.
On n'est pas loin des sorcières non plus, quoi.
Oui, entre autres, mais les personnages de vampires et de fantômes sont très présents dans la littérature du 19e siècle. Et je me suis interrogé au moment de voir les momies sur le statut des momies et le rapport du personnage de la momie le rapport que pouvait avoir le personnage de la momie avec les personnages que j'étudiais dans ma thèse, en fait.
Alors, vous avez fait visiter cette expo à plein de classes, à plein d'enfants qui sont fascinés par les momies, en tout cas l'immense majorité d'entre eux. Vous, c'est une fascination que vous aviez aussi déjà enfant pour les momies et c'est ce côté un peu mystérieux.
Pas vraiment, je dirais, mais j'ai trouvé intéressant la différence justement entre les représentations que pouvaient avoir les enfants et ce qu'on retrouvait dans les fictions, et en fait l'adéquation entre les deux, puisque quand vous interrogez un enfant, tout de suite la représentation qu'il a, c'est celle qui est véhiculée par les fictions et par la littérature populaire en général. Et donc, il m'intéressait de voir dans le détail comment était représenté le personnage de momie dans les fictions.
Vous aviez déjà quelques ouvrages en tête ?
Oui, bien sûr, parce que j'avais vu les lectures que j'avais faites. Il y avait un certain nombre d'auteurs qui étaient qui traitaient le personnage que j'analyse dans ma thèse, qui traitaient aussi le personnage de momie. Simplement, la différence, c'est que en fait, pour le personnage de vampire ou pour les personnages de fantômes, il y a tout un tas de récits, on va dire archétypaux. Si je prends l'exemple du vampire, vous avez la mort amoureuse de Théophile Gautier, vous avez le vampire de Polidori, qui était le médecin de Byron, et puis bien sûr Dracula. Donc il y a comme ça un grand récit archétypal qui se développe au 19e siècle, et pour la momie c'est un tout petit peu différent. C'est assez surprenant d'ailleurs, on a plutôt un personnage qui est marginal dans la littérature fantastique. Il apparaît plutôt dans des nouvelles et il apparaît avec des traitements plutôt différenciés, en fait. Et c'est ça qui m'a intéressé aussi.
Alors il est marginal dans cette littérature parce qu'il est marginal aussi dans l'esprit des gens, finalement, en général. C'est ça qui fait qu'il y a cette marginalité autour de du personnage de la momie.
Je ne pense pas, parce qu'il devient en fait un personnage fantastique important plutôt à partir du XXe siècle. Et c'est lié à l'émergence d'une affaire qui va donner en fait une dimension un peu plus intéressante au récit de momies en général. C'est la question de la malédiction de Toutankhamon qui se développe à partir de 1922 et qui est en fait colportée par la presse et même de manière assez délirante accentuée par la presse, parce qu'on fait croire que tout un tas de personnes qui étaient membres de cette exposition meurent alors qu'ils sont parfaitement vivants et on voit le rôle de la presse que la presse joue là-dedans, en fait, dans le développement de cette mythologie autour de la malédiction de la momie de Toutankhamon. Et c'est cette malédiction qui va influencer Hergé, notamment dans ses ouvrages Les Sept Boules de Cristal et Le Temple du Soleil, mais aussi dans tout un tas de... on peut penser à Anne Rice aussi, la momie. On retrouve l'idée de malédiction beaucoup plus présente qu'elle ne l'était au XIXe siècle, où finalement la momie est un revenant parmi d'autres, et qui est même un revenant un peu exotique, donc qui n'intéresse pas plus que ça les auteurs de fantastique, en tout cas beaucoup moins que le vampire, puisque le vampire en termes de nombre de textes est beaucoup plus présent.
Ça veut dire aussi quelque chose de particulier peut-être, c'est que ce personnage de momie, c'est quelque chose qui prête souvent à rire. Il y a souvent des parodies, peut-être plus en ce qui concerne les momies qu'en ce qui concerne les vampires, par exemple.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, le premier texte que j'analyse, qui date des années 1830, qui s'appelle Le pied de momie de Théophile Gautier, et qui a un lien assez intéressant avec l'exposition, parce qu'on retrouve dans l'exposition des momies qui viennent de la région andine, mais dans la caisse dans laquelle se trouvaient les momies, il y a une main de momie égyptienne. Et il se trouve qu'au XIXe siècle, des parties de momies, comme ça, se trouvaient un peu partout dans des magasins de bric-à-brac. Et c'est le point de départ de la nouvelle de Gautier, où vous avez un gentilhomme du XIXe siècle qui va dans un magasin de bric-à-brac et qui découvre un pied de momie et l'achète pour l'utiliser comme serre-papier. Puis quand il arrive chez lui, il est un peu aviné.
Il est un peu aviné.
Et le pied commence à se balader tout seul sur son bureau. Et derrière le rideau, il voit tout à coup une jeune femme sans pied, et c'est évidemment la momie qui apparaît devant lui. Et le traitement est plutôt comique, parce qu'à la fin il se retrouve devant le père de la momie et il lui dit non mais vous pouvez pas vous marier parce que il y a une trop grande différence d'âge entre vous. Donc vous voyez qu'il y a un traitement là qui extrêmement comique et qui désamorce en quelque sorte le côté inquiétant du personnage de la momie.
Mais entre justement la momie, il y a vraiment un rapport avec la mort, il y a aussi un rapport parfois avec la vie, avec ces malédictions, ces momies qui se lèvent. Mais est-ce que ça fascine moins que les vampires ou Frankenstein par exemple, parce que finalement les vampires défient la mort, ils sont immortels?
Oui, mais on est un peu dans la même démarche quand même, parce que si on prend le personnage de Revenant et si on reprend la typologie du personnage fantomatique de Daniel Sansu, vous avez les Revenants, ce qu'on appelle les Revenants, ou ce que lui appelle les Revenants encore, de manière un peu pléonastique, parce que c'est pour les différencier avec les spectres. Donc vous avez en gros les Revenants qui ont une forme corporelle, comme les vampires ou les momies dans ce cas-là, et les revenants qui sont plus évanescents dans la littérature, qui seraient les spectres ou ce qu'on appelle les fantômes. Et pour la momie, on a un personnage qui ressemble au personnage de vampire, qui est de la même aspiration, mais il y a quelque chose qui est, à mon sens, moins intéressant, c'est la possibilité pour la momie de contaminer les vivants. Alors que pour le vampire, on le sait, une morsure de vampire vous fait devenir vampire à votre tour, et il y a un côté plus menaçant dans le personnage du vampire que dans le personnage de la momie. En plus, le personnage de la momie apparaît au XIXe siècle à la suite des découvertes des invasions de Napoléon, et l'univers oriental et l'orientalisme se développent au XIXe siècle, et le personnage de la momie a un côté exotique. Et on sait que les personnages qui nous font vraiment frémir sont ceux qui appartiennent véritablement à notre culture et à nos pratiques et à nos rites. Et le personnage de la momie n'est pas véritablement dans ce cas-là.